Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, élu le 22 novembre dernier en remplacement de Pascal Pavageau et en pleine crise des Gilets jaunes. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Yves Verrier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Inter.
Merci.
Élu donc à la tête de FO en pleine tempête des Gilets jaunes, je le disais. L'intervention du président de la République était hier attendu à plus d'un titre. Quels arbitrages sur le futur énergétique de la France? Quelle réponse pratique immédiate à ce mouvement? Et par quels moyens faire redescendre la pression? Alors sur ce dernier point, pour commencer, place à la discussion, au débat. Tous les acteurs pourront se parler et avancer ensemble pendant 3 mois. La méthode n'est plus verticale depuis Paris, mais horizontale et participative depuis toute la France. Est-ce que vous saluez au moins ce changement méthode?
On était invités, hein, les syndicats comme les organisations d'employeurs, donc en soi c'est déjà un fait. Cela étant, je l'ai dit en sortant, j'aimerais bien que le président de la République intègre un peu plus dans son vocabulaire syndicat et salaire. Je le dis puisqu'hier on était sur la question du climat, parce que je crains qu'il y ait une petite musique qui se développe. L'augmentation des salaires, les salaires ne sont pas l'ennemi du climat. De ce point de vue, les réponses, le président de la République a évoqué l'urgence climatique. On est entièrement d'accord. On est d'ailleurs très investi sur cette question depuis longtemps au niveau de la Confédération. Il a aussi admis qu'il y avait une urgence sociale. Il a précisé de ce point de vue qu'il fallait apporter des solutions qui soient sensibles, concrètes, simples et des solutions, pas forcément de normes supplémentaires.
Donc pour vous, la hausse des salaires, c'est la solution la plus simple pour répondre à cette crise du pouvoir d'achat?
Mais il y a une solution simple. Le mouvement des Gilets jaunes est parti de quoi? De la hausse du coût de l'essence et du diesel, en particulier pour celles et ceux, et dont beaucoup de salariés, qui n'ont pas d'autre possibilité pour aller au travail que de prendre la voiture. Il y a un dispositif qui existe, il n'y a pas besoin de créer une nouvelle norme, elle existe déjà. C'est la prime transport. Elle a été créée en 2008, c'était une revendication portée par Force Ouvrière en 2005. On fait le constat qu'elle est assez peu mise en place parce qu'elle dépend de la bonne volonté des entreprises, notamment dans les petites et moyennes, d'ouvrir soit une négociation, soit de prendre une décision. Eh bien, nous avons dit, mettons-nous autour de la table, avec le ministère du Travail, les organisations d'employeurs, les syndicats, et regardons comment on peut faire en sorte que ce dispositif s'applique pleinement. On peut rediscuter, y compris d'ailleurs, du plafonnement à 200 euros, et on a là du grain à moudre.
D'accord. Prime transport. Bon, la prime transport, c'est ce que vous défendez, vous, oui, à Force Ouvrière. Manifestement, ça n'a pas été retenu hier par Emmanuel Macron, qui dit qu'il faut garder le cap sur la transition écologique, mais qui ouvre la voie à une taxe flottante en disant si le pétrole flambe, on pourra revoir cette fiscalité écologique. Est-ce que déjà sur ce point-là, qui était la grande annonce d'hier, est-ce que vous lui donnez un bon point?
Écoutez, sur ce point-là, on a dit, nous, il faudrait répondre immédiatement. Parce que, encore une fois, les salariés, les travailleurs qui se sont exprimés ces jours-ci, ils attendent une réponse immédiate. Franchement, on imagine bien que ça répond pas à ceux aujourd'hui qui disent à chaque fois que je vais faire le plein, ça me coûte plus cher. Et donc, la taxe plus ou moins flottante annoncée par le président de la République, ça s'appliquera quand? En tout cas, pas tout de suite, puisque le prix du baril est en train de baisser. Donc du coup, l'effet en question, il est pour plus tard. Nous avions demandé un moratoire, le temps au moins qu'on négocie, qu'on discute. Moi, je considère pas que c'est fini. Je vais revenir auprès des pouvoirs publics, auprès du ministère du Travail, auprès des employeurs très vite, pour regarder comment on fait pour actionner le dispositif de la prime transport. On a la possibilité de répondre très vite, très clairement, très nettement à une question de pouvoir d'achat. Ensuite, de toute façon, il va y avoir le SMIC bientôt.
La question donc.
Le gouvernement serait bien inspiré, là, pour le coup, d'augmenter le SMIC un peu plus que l'augmentation obligatoire. L'année dernière, il a été augmenté de 1,2, les prix sont montés à 1,9, il y a de la matière, il va forcément augmenter obligatoirement un peu plus cette année, du fait de l'inflation, mais il y a besoin
de... Vous espérez une augmentation de combien?
Booster
vous
le
espérez
pouvoir
une
d'achat.
Augmentation de combien?
Notre
du SMIC
revendication,
au 1er
janvier. C'est de porter le SMIC à 80% du salaire médian. Le salaire médian, il est à 1700, ça fait un SMIC brut à 1400, à peu près.
Ça veut dire combien d'augmentation concrètement?
Eh bien, passer de ce qu'il est aujourd'hui à 80%, ça fait de l'ordre de 100 euros d'augmentation.
Comment analysez-vous le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il vous semble durable, appelé à s'inscrire, à s'enraciner dans le paysage politique, sous une forme ou sous une autre?
Ça, je ne saurais pas le dire. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que les syndicats... Vous savez, on nous dit les Gilets jaunes expriment une colère, etc. Mmh. Le 9 octobre, les syndicats appelaient, et Force Ouvrière en particulier, à manifester. Plusieurs centaines de milliers de salariés ont manifesté. Si on ne nous écoute pas, si on ne tient pas compte de cette expression syndicale, évidemment, ensuite, ça prend d'autres formes. Et je pense que si on avait eu une écoute, une réponse au lendemain du 9 octobre, peut-être que les choses ne se seraient pas produites aujourd'hui de cette façon.
Est-ce que ça ne vous interroge pas, ce mouvement des Gilets jaunes, puisque vous parlez de vos mobilisations, vous les syndicats, elles sont beaucoup plus faibles que ce qu'ils ont réussi, eux, à faire, les Gilets jaunes, alors qu'ils n'ont pas de leader, alors qu'ils n'ont pas de parti. Est-ce que ça ne vous interroge pas sur votre utilité démocratique et, si j'ose dire, votre inutilité démocratique?
Ben écoutez, plus faible, moi j'ai le souvenir quand même des manifestations sur la loi travail qui ont été massives, nombreuses, qui ont duré plusieurs mois et dont je pense quand même qu'elles ont eu de la visibilité. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Alors, est-ce que on est suffisamment utile ou pas? Est-ce qu'il faut franchir un cap supplémentaire? Est-ce qu'il faut un jour que la grève se déclenche? Si on ne nous écoute pas, à un moment ou à un autre, c'est ce qui se passera, ça c'est clair.
Donc, quand votre ligne rouge pour que la grève se déclenche? Parce que la loi travail, elle
ça
est passée.
Ça ne se déclenche pas.
La loi travail, elle est passée. La loi sur la SNCF, elle est passée. L'ISF, c'est passé. À quel moment vous dites qu'il faut déclencher?
Il y a aujourd'hui une vraie question sur le pouvoir d'achat. L'INSEE évalue à une perte en moyenne de 500 euros du pouvoir d'achat des ménages depuis 2008. Il y a un recul du point de vue de l'inflation qui est reparti un peu à la hausse ces derniers temps. Donc là, sur cette question, on voit bien ce qui est parti sur cette affaire. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que les salariés aussi sur les Gilets jaunes. La difficulté, elle est aussi que c'est beaucoup plus large.
Le SMIC, pour ceux qui ne sont pas salariés, ça les concerne
pas. Oui,
oui,
oui, mais c'est vrai des petits employeurs, des auto-entrepreneurs, etc. Beaucoup ceux qui utilisent le véhicule. Il y a des enjeux en matière d'accès à l'énergie, il y a des enjeux pour les pensionnés, les retraités, qui sont aussi impactés par une contrainte sur le relèvement des pensions. Donc il y a là une vraie affaire. C'est une question que porte Force Ouvrière. On a longtemps dit Force Ouvrière, c'est le syndicat de la feuille de paye. Alors la ligne rouge, elle est effectivement qu'à un moment ou un autre, il faut admettre que le pouvoir d'achat, les salaires, ne sont pas ni l'ennemi du climat, ni l'ennemi de l'économie. Il faut être en capacité de développer une économie. On a parlé, par exemple, du nucléaire. Il y a une filière industrielle importante, 220 000 emplois. Faisons attention à ne pas affaiblir cette filière industrielle. On a besoin d'emplois.
On va y venir en détail. Yves Verrier, une dernière question. Laurent Berger est intervenu très vite dans le conflit des Gilets jaunes en appelant au dialogue, à la discussion. Depuis, il est vu comme une espèce de figure tutélaire de la République en crise, vers laquelle tout le monde se tourne. Êtes-vous un petit peu jaloux de ce retour en grâce de la CFDT?
Non, pas du tout. D'abord, je ne nous considère pas comme, en tout cas, Force Ouvrière, figure tutélaire de la République ou de quoi que ce soit. On est profondément républicain, mais on est aussi très attaché à ce que le syndicat reste un syndicat, pas un parti. Nous ne pouvons pas, nous, prendre en charge les problèmes et les enjeux sociétaux. C'est à la charge du politique, au sens noble du terme. Et nous représentons les intérêts des salariés. Et moi, je veux m'en tenir à cela et je m'en tiendrai à cela, sachant que les salariés composent quand même une large partie de la population et que le syndicalisme, ne l'oublions pas, et ça c'est une des grosses difficultés aujourd'hui que nous avons par rapport aux politiques qui sont mises en œuvre, Force Ouvrière est à l'origine et a longtemps été partie prenante de la gestion des systèmes de protection sociale collective, de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, des retraites complémentaires. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Si on nous écoute sur ce terrain-là, ça sera suffisant. Je laisse la tutelle à ceux qui veulent être tuteur.
À ceux qui veulent être figure tutélaire. Le nucléaire, vous venez de dire attention à ne pas affaiblir la filière nucléaire. Est-ce que quand vous avez entendu Emmanuel Macron hier, qui manifestement, mis à part Fessenheim, ne donne pas de calendrier précis de fermeture des centrales, même s'il prévoit d'en fermer 14 d'ici 2035, mais aucun engagement ni sur ce quinquennat, ni sur le quinquennat prochain, est-ce que vous êtes rassuré?
Disons que si on met un peu de raison dans cette affaire, ce sera mieux. Hein. C'est-à-dire que on parle beaucoup sans forcément exactement savoir ce qu'il en est. Fessenheim, par exemple, n'est pas une centrale à gros risque aujourd'hui, contrairement à ce que on entend comme petite musique.
Donc vous dites qu'il ne faut pas fermer Fessenheim, vous ?
Ben, nous pensons qu'on aurait pu se passer de fermer Fessenheim, ça c'est clair. Et que l'on mette comme condition la fermeture une analyse un peu plus précise sur le plan technique de la sécurité, on a quand même une autorité indépendante de la sûreté nucléaire. Évidemment que je suis attentif à la sécurité, je suis attentif à la question du traitement des déchets nucléaires. Nous ne sommes pas des pro-nucléaires aveugles. Si vous voulez, puisqu'on fait beaucoup mon portrait en ce moment, une de mes premières mobilisation, c'était dans les années 70, 76, 77, autour de la question du Super Phénix à Crémalville. Donc, vous voyez, et je suis, je l'ai dit, ingénieur météo. Je connaissais très bien le directeur général de l'Organisation mondiale de la météorologie, qui était vice-président du GIEC, parce qu'il était un de mes premiers patrons de service.
Il faut réduire la part du nucléaire à 50%. Est-ce qu'il faut réduire la part du nucléaire à 50%?
Mais ça, c'est une espèce de dogme, comme les déficits à 3%. Pourquoi faudrait-il réduire à 50%?
Donc vous êtes contre?
Mais nous ne pensons, je ne suis ni pour ni contre.
Bah,
je pense qu'il n'y a pas
un
besoin.
Moment, une politique, c'est de donner des objectifs.
Non,
réduire
la,
à 50%,
la politique, c'est qu'il y a l'urgence climatique, c'est réduire. Et il y a un rapport qui vient à nouveau de sortir sur les émissions de gaz à effet de serre. On en produit encore aujourd'hui plus qu'auparavant chaque année. Et le nucléaire est une source d'énergie électrique qui permet de faire zéro émission de gaz à effet de serre.
Donc on reste à 75. Pourquoi baisser?
Ben, on reste à je suis pas ni pour 75, ni pour 80, ni pour 50. On fait en sorte qu'on relance la filière. Par exemple, la question de l'EPR. On nous dit, il faut vérifier que ça va fonctionner, etc. Il y en a un qui marche en Chine. Quand on a imposé Hinkley Point, on ne s'est pas posé la question. Donc, pourquoi ne lance-t-on pas tout de suite les recherches, qu'on fasse en sorte que la sécurité maximale soit évidemment assurée et qu'on s'intéresse évidemment à la question du retraitement des déchets, parce que les questions du nucléaire sont celles-là.
Vous ne verriez pas comme un casus belli le fait que de nouveaux EPR puissent être installés en France? Pas
non,
du tout.
Vous les encouragez en fait, si on comprend bien. Ce matin, vous dites pourquoi réduire à 50% la part du nucléaire?
Je n'encourage pas.
Pourquoi
moi.
Ne pas construire de nouveaux EPR? Regardez, ça marche en Chine. Bon, Flamanville, ça marche un peu moins bien. Hein. On a toujours pas une date d'ouverture. Mais pourquoi pas construire de nouveaux EPR? C'est ce que vous dites.
Oui, mais c'est pas moi qui le dit. Enfin, je suis pas ni ingénieur ni expert. Donc ça, c'est aux ingénieurs et aux experts de nous dire si c'est faisable et comment c'est faisable, à quel coût c'est faisable. Et c'est comme ça que les réponses doivent être apportées. De ce point de vue, le discours d'hier mettait l'accent sur l'expertise technique, scientifique. Ça vaut pour le climat et ça vaut pour le nucléaire comme pour n'importe quelle industrie.
Alors, quelques questions avant de donner la parole aux auditeurs sur Force Ouvrière. Est-ce qu'il va falloir du temps à FO pour se remettre de la crise que vous venez de traverser? La succession Mailly-Pavageot n'était déjà pas si simple que ça. Elle a été même rude et parfois polémique. S'y est ajoutée la crise des fichiers et donc le départ de Pavageot, puis la crise des notes de frais de certains des dirigeants. Quelle leçon tirez-vous de toute cette séquence qui a été quand même compliquée?
Bah écoutez, ça va peut-être vous étonner, mais je suis assez fier parce qu'on a été confronté à une crise très grave. Ce qui s'est produit est totalement contraire aux valeurs de Force Ouvrière. Ficher les gens en fonction de leurs orientations politiques, philosophiques, leur situation de santé, leurs orientations sexuelles, c'était impensable. Je l'ai dit, c'était impensable. J'ai dit moi-même que j'ai enfin compris ce qu'était qu'être dans un état de sidération, parce que je crois que c'est à peu près ce qui m'est arrivé la journée qui a suivi la publication de l'article du Canard enchaîné. Mais là où je suis assez fier, c'est que justement, ça ne pouvait pas passer, je voulais pas paraphraser, mais à Force Ouvrière, et que ça a été très vite réglé par des décisions très rapides, très claires, très nettes, incontestables.
Mais est-ce que l'organisation elle-même était malade pour susciter ce genre de comportement?
Non, l'organisation n'est pas malade, parce que l'organisation, elle a réagi tout de suite. Et en moins d'un mois, on a réglé la question en élisant, y compris dans un cadre très démocratique, puisqu'on avait trois candidats qui se présentaient et qui étaient soutenus par diverses organisations de la Confédération. Et donc, on a procédé à un vote dans le calme, dans le débat, même si le débat est parfois rigoureux et intense. Et on a procédé à l'élection. Et aujourd'hui, je l'ai dit, on est en forme et en force.
Vous avez parlé à Pascal Pavageot, vous savez comment il va, il a rendu des comptes, il vous a dit des choses?
Non, je n'ai pas eu d'échange avec lui, parce que je pense que c'est humainement très difficile. Moi j'ai dit très souvent que j'étais autant attaché à la présomption d'innocence, aveu ne vaut pas culpabilité, qu'à la protection des données personnelles, individuelles. Donc je ne veux pas me transformer ni en enquêteur, ni en quoi que ce soit d'autre.
Allez, le dialogue avec les auditeurs d'Inter. Bonjour Sébastien. Vous êtes bonjour, là, Sébastien, bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonjour. Eh ben, la question est simple, est-ce qu'à un moment donné, un syndicat en France va se bouger pour faire arrêter l'exonération de charges sur les bas salaires, qui existe en France depuis 40 ans, qui s'appelle maintenant l'exonération Fillon 2? Et ça, par contre, ça pourrait faire monter le pouvoir d'achat de manière très forte, quoi.
Merci Sébastien pour cette question. J'ajoute celle de Jules. Plutôt que revendiquer une hausse des salaires, il est gérant de PME, c'est via l'application de France Inter. Plutôt que revendiquer une hausse des salaires, pourquoi ne pas exiger une baisse des charges salariales et patronales? C'est l'inverse qui augmenterait nettement le salaire net. En effet, notre taux de charge sur les salaires est le plus haut d'Europe. Même problématique de question Yves Verrier.
Bah écoutez, d'abord, j'aimerais qu'on change cette terminologie de charge, parce que c'était des cotisations sociales. Nous, on appelle ça le salaire différé. C'est une part du salaire qui est versée par les salariés, et la part patronale et la part de salaire que l'employeur verse directement dans les caisses de sécurité sociale. C'est la solidarité ouvrière et c'est les systèmes de sécurité sociale. Longtemps, je pense que beaucoup pensent peut-être que c'est une forme de service public ou géré par l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sécurité sociale est quasiment gérée par l'État, parce que depuis 95, le mouvement a été effectivement de passer d'un système assurantiel collectif à un système étatique. C'était contre notre volonté, hein, les grèves de novembre-décembre 95. Marc Blondel avait appelé ça le rapt sur les cotisations sociales, sur le salaire des salariés. Donc nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée que d'avoir effectivement fait basculer cela. Nous étions en capacité de prendre nos responsabilités, y compris sur la gestion des systèmes de sécurité sociale. Le président de la République a dit depuis le porte-avions que le système de santé français restait un des meilleurs au monde, sinon le meilleur au monde, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, y compris en étant moins coûteux rapporté au PIB qu'aux États-Unis, ou moins de salariés sont couverts, bien moins couverts. Donc, on a de quoi être fiers, je pense, y compris Force ouvrière, puisqu'on a longtemps géré les caisses de sécurité sociale. Ces systèmes-là ont fait leur office, y compris face à la crise, face à une situation de l'emploi très dégradée.
On est en ligne maintenant avec Claude, retraité, je crois. Bonjour et bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Yves Verrier. Oui, je suis retraité de l'Alstom en Seine-Saint-Denis. Et j'étais samedi dernier en gilet vert, mais en haut de l'avenue des Champs-Élysées, pendant qu'il y avait des excités en tout genre qui étaient vers la place de la Concorde. Et c'était une mobilisation très hétéroclite, comme tout le monde l'a remarqué. Mais j'ai pu discuter avec des jeunes d'école d'agriculture de l'Aube, ou avec même, j'ai rencontré un salarié de Air France. J'ai même vu réellement des cheminots se présentant comme étant de Force ouvrière avec une banderole. Et ma question est la suivante, c'est pourquoi est-ce que votre syndicat, vous n'êtes pas le seul en cause, bien sûr, mais pourquoi votre syndicat n'a pas appelé à cette mobilisation pour défendre l'augmentation des salaires comme vous l'avez fait ce matin, pour aussi lever la confusion qui est entretenue, encore comme un auditeur l'a fait tout à l'heure, c'est entre taxes et cotisations sociales, et puis aussi pour aller à la rencontre de petits professionnels. Il y a des agriculteurs qui se battent depuis 2 ans pour des prix garantis. C'est l'occasion d'amener notre solidarité en tant que salarié. Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que samedi prochain, s'il y a cette mobilisation qui est maintenue, est-ce que vous allez appeler à rejoindre cette mobilisation-là sur des revendications claires. Je pense que ça peut aider certainement à la mobilisation des salariés dont vous parliez pour le mois d'octobre.
Merci Claude pour cet ensemble de questions. Yves Verrier, pourquoi n'étiez-vous pas, vous et FO, sur les Champs-Élysées la semaine dernière et y serez-vous la prochaine?
La mobilisation, ce qu'on appelle les gilets jaunes, est partie effectivement de la question du coût de l'essence et du diesel. Et ça touche les salariés, mais ça ne touche pas que les salariés, je l'ai dit. Et on a bien vu que ce mouvement réactif de colère ensuite agrégé d'autres éléments de colère, et on a vu, y compris, s'exprimer des mots d'ordre auxquels en aucun cas Force ouvrière ne pourrait adhérer, qui concerne petite minorité, c'est vrai. Sur la question qui est posée...
Et Claude vous demande, oui, est-ce que vous en serez pour les prochaines mobilisations?
Nous avons dit que nous resterons sur le terrain syndical, et par image, j'ai dit le jour où la mobilisation devient gilet rouge, elle sera syndicale. Donc on rappelle, nous, en ce moment, ce que sont nos revendications. J'ai quand même... je porte une revendication communication très claire, très nette, qui répond, et j'appelle le gouvernement, j'appelle les employeurs à nous donner réponse, parce que si on n'écoute pas les syndicats, si on ne donne pas sa place au dialogue social et à la négociation collective, ça se termine dans la rue, c'est inévitable.
Et vous les soutenez ou pas, les Gilets jaunes, c'est pas clair?
Je soutiens les travailleurs, les salariés, qui expriment une colère du point de vue de leur salaire et qui appellent à ce que on réponde à cette question en matière d'augmentation de salaire sans ambiguïté.
Dont les Gilets jaunes.
Qu'il soit gilet jaune, qu'il soit gilet vert, comme monsieur qui vient de nous appeler, mais surtout qu'il soit gilet rouge quand ils sont les adhérents de la Confédération Force Ouvrière.
Alors, une autre question. Les arrêts maladie augmentent chaque année et ils sont de plus en plus longs. Il y a une réunion aujourd'hui entre les patrons et les syndicats. Vous en ferez partie avec FO. Il y a une piste qui est soufflée par le gouvernement. C'est augmenter, aller plus loin sur le télétravail. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis pas sûr, j'ai rien contre le fait qu'on travaille sur le télétravail, qu'on négocie, qu'on discute sur le télétravail, mais je ne suis pas sûr que le télétravail doive être abordé uniquement sous l'angle de la réponse aux arrêts maladie. Et si c'est pour faire travailler des gens qui sont en arrêt maladie à distance, c'est pas la bonne idée. Donc j'aimerais voir quand même ce qu'il y a derrière. Ça fait un moment qu'on appelle, nous, à ce qu'il y ait une négociation au niveau interpro, puisqu'il y avait eu un travail préalable entre les employeurs et les syndicats sur la question du télétravail. On pense qu'on a tous les éléments pour ouvrir une négociation là-dessus, puisque c'est un mode de travail qui à se développer, qui est parfois demandé. Donc, il y a une matière. Est-ce que c'est la réponse aux arrêts de travail? Je souligne quand même qu'il y a quelques rapports qui me semblent avoir mis en évidence que le recul de l'âge de la retraite était pour partie aussi responsable, semble-t-il, de l'augmentation des jours d'arrêt maladie.
On retourne au standard. Chantal, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Alors, j'habite Marseille. Je suis extrêmement bouleversée par l'état de cette ville et après ce qui s'est passé, enfin, auquel on s'attendait d'ailleurs, des immeubles qui s'effondrent. Et je suis extrêmement choquée de la collusion entre le syndicat FO et la mairie de Marseille depuis des années. Ça a été de fer et maintenant c'est Godin. Et ce maire devrait démissionner, c'est déjà le premier pas. Et qu'il y ait un grand nettoyage au niveau du syndicat. Voilà.
Merci. Merci Chantal pour cette question entre la proximité FO, maire de Marseille. Yves Verrier vous répond.
Mais écoutez, la proximité de FO, elle tient au fait que FO est un syndicat dont les salariés de la municipalité considèrent qu'il est efficace et qui y adhère, vote pour ses délégués et donc qui est le syndicat majoritaire. Donc, par définition, c'est l'interlocuteur du maire, quel qu'il soit. Vous l'avez dit d'ailleurs, madame, c'était de faire ces Godin aujourd'hui. Par évidence, quand le syndicat...
Par une collusion, nettoyage et
oui,
compagnie.
Oui,
hein,
mais ça, c'est...
C'est pas le simplement, voilà, on parle avec les interlocuteurs, quels qu'ils soient, là. Ça a l'air d'être plus fusionnel à Marseille.
Non, mais c'est pas collusion, c'est pas nettoyage. J'aime absolument pas ces termes-là. On vient de se débarrasser d'un fichier. J'ai horreur de ces termes quand on parle d'être humain.
Dernier appel au standard, c'est Philippe qui est en ligne. Philippe depuis la Loire. Bonjour.
Bonjour, voilà, c'est Philippe, je suis dans la Loire depuis 3 ans, après 25 ans passés en Haute-Savoie dans la métallurgie, et toujours dans la métallurgie, j'ai adhéré à la CGT, j'ai adhéré à FO, je suis de nouveau adhérent à la CGT. Dans les manifs, les gens de FO sont des camarades, les gens de la CGT sont des camarades, la guerre froide est finie, quand est-ce?
Quand est-ce qu'elles
vont se poser
autour d'une table et mettre de côté et derrière eux la guerre froide? Écoutez, on transmet la question, merci Philippe, à Yves Verrier rapidement.
Que ce soit les camarades de la CGT ou d'un autre syndicat, nous, ce qui nous importe, c'est lorsque l'on estime nécessaire, si on est capable de se mettre d'accord et d'agir de façon unitaire, on est évidemment beaucoup plus efficace. Donc, à chaque fois qu'on peut dégager...
Ah, mais là, il faut la fusion, Philippe.
Oui, on n'en est pas là et on n'en sera pas là avant longtemps, voilà, je pense.
Voilà votre réponse, Philippe. Merci en tout cas beaucoup, Yves Verrier, d'avoir été au micro de France Inter, nouveau secrétaire général de Force Ouvrière. On a une question rituelle toute cette semaine qu'on pose à l'ensemble de nos invités. Et vous, Yves Verrier, comme citoyen, que faites-vous pour le climat, pour sauver la planète? Comme citoyen, je dis bien.
J'habite en région parisienne et moi, ça fait très longtemps que je m'efforce d'utiliser d'abord les transports en commun. Il y a 2 ans, je me suis même acheté, j'ai revendu ma moto et j'ai acheté un vélo électrique. Et je me fais régulièrement attraper par mes enfants qui trouvent qu'il fait trop froid à la maison parce que je mets le chauffage à minima.
Eh bien voilà, merci Verrier, le carrefour du 7-9 à suivre.